Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'Iran. 1979, Khomeini a-t-il volé la révolution iranienne ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'ayatollah Khomeini, qui se présentait comme un religieux désintéressé par l'exercice du pouvoir, a rapidement pris le contrôle de la révolution, a concentré tous les pouvoirs dans les mains des religieux et restreint les libertés individuelles des Iraniennes et des Iraniens. Aujourd'hui, nous allons voir comment la révolution iranienne va prendre un tournant nouveau, encore plus radical, avec la prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran. Octobre 1979. Cela fait 9 mois maintenant que le Shah d'Iran a fui le pays et 6 mois que la République islamique a été proclamée à Téhéran. Mais la colère des Iraniens contre le Shah n'est pas retombée. Elle monte encore d'un cran lorsque le 22 octobre, la radio officielle annonce que l'ancien monarque, malade d'un cancer, a été hospitalisé aux États-Unis. Dans des discours enflammés, Khomeini accuse l'Amérique d'héberger, je cite, « un tyran criminel qui devrait être extradé et jugé en Iran ». Et l'ayatollah appelle la population à défendre la révolution contre ce qu'il qualifie de complot impérialiste. L'hostilité envers les États-Unis se radicalise. Des manifestations éclatent devant les ambassades et consulats américains. Rien ne semble pouvoir arrêter l'escalade. Et le matin du 4 novembre survient l'impensable. Plusieurs centaines d'étudiants iraniens prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Un événement qui marque un nouveau tournant dans la révolution iranienne.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Il est 13h, vous écoutez France Inter.
Yves Mourouzi, le 4 novembre 1979.
Plusieurs centaines d'étudiants occupent actuellement l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils sont entrés en force vers 10h ce matin et ont pris tout le personnel de l'ambassade en otage. Les Américains sont groupés dans une pièce. Voici ce que nous déclarait il y a de cela quelques instants par téléphone notre confrère de l'agence France Presse, notre confrère Barzani à Téhéran.
Ils ont pris en otage les membres du personnel, leur ont attaché les mains et ont mis des bandeaux sur leurs yeux. Ils ont déclaré que tant que le gouvernement américain n'extradera pas le Shah en Iran, ils conserveront les membres du staff des États-Unis en otage.
L'ambassade américaine est une grande bâtisse sécurisée située dans un quartier calme de Téhéran. Mais depuis plusieurs semaines, les rues de la capitale se remplissent de manifestants brandissant des drapeaux islamiques et scandant des slogans anti-américains. À l'intérieur de l'ambassade, le personnel, composé d'agents diplomatiques, de fonctionnaires et d'employés locaux, s'inquiète de cette montée de tension, mais personne ne peut imaginer qu'une attaque directe est imminente. Le 4 novembre 1979, vers 9h du matin, un groupe d'environ 300 étudiants, qui se font appeler les étudiants musulmans suiveurs de la ligne de l'imam, l'imam c'est-à-dire Khomeini, armés de gourdins et de lance-pierres, s'amassent devant les grilles de l'ambassade en criant « Mort à l'Amérique, rendez-nous le Shah, la révolution islamique triomphera ». Soudain, ils poussent violemment les grilles qui cèdent sous la pression. L'immunité de l'ambassade vient d'être violée. Les Marines tentent de repousser les assaillants, tandis qu'à l'intérieur de l'ambassade, les employés se mettent en urgence à passer à la broyeuse des documents sensibles. Mais au bout de 2 heures, les étudiants envahissent le bâtiment et prennent en otage 56 diplomates et civils américains qui seront retenus dans l'ambassade pendant 444 jours. On pourrait s'attendre à ce que cette prise d'otages, illégale au regard du droit international, menée par de jeunes étudiants exaltés, soit condamnée par Khomeini. Tout au contraire, le vieil homme la cautionne, voyant là l'occasion de conforter son pouvoir et d'humilier les États-Unis, désormais appelés le Grand Satan. Quelques otages seront relâchés rapidement, les autres conservés pour servir de monnaie d'échange politique. Pour libérer les otages, le gouvernement iranien réclame que les États-Unis leur livrent le Shah. C'est le début d'une crise internationale inédite qui, pendant 1 an et demi, va tenir le monde en haleine. En avril 1980, le gouvernement Carter lancera une opération militaire qui tournera au fiasco. Les otages ne seront libérés qu'en janvier 1981, juste après l'élection de Ronald Reagan. Bernard Ourka, dans quoi la prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran marque-t-elle un tournant dans la révolution iranienne ? L'événement a même été qualifié de seconde révolution en référence à la révolution bolchevique en Russie en octobre 1917.
Tout à fait. Désormais, on ne dit pas « Abat le Shah », on dit « Abat l'Amérique ». C'est une nouvelle étape. Et mais cet événement rentrait dans le contexte de la guerre froide, avec en particulier, quelques semaines plus tard, l'Union soviétique qui a envahi l'Afghanistan. Et tout le monde dit, voyez, la révolution islamique d'Iran est une révolution, en fait, il n'y a rien d'islamique, rien du tout, c'est une révolution bolchevique. C'est l'URSS qui est derrière, qui a manipulé Roménie, qui a manipulé tout cela pour prendre le pétrole du Golfe Persique. Et à partir de ce moment-là, l'Iran a été prisonnier de sa révolution. Parce que ce n'était pas la question des femmes. Tout le monde s'en moque entre nous des femmes, n'est-ce pas ?
Sauf les femmes.
Sauf les femmes. Mais ça ne va pas faire une révolution pour ça. Par contre, si on touche à l'Amérique, à l'armement, à l'URSS, au pétrole, là, ça devient sérieux. Et Roménie, qui est un pragmatiste, il suit le vent. Il a vu que le vent des démocrates était dans le bon sens, il a pris le vent des démocrates. Il a vu que le vent international anti-américain était là, il a pris ce vent-là. La révolution islamique était intérieure, c'est le I de Iran. Les Iraniens sont iraniens, il y a un changement. C'est une révolution qui élargit son cercle, elle est islamique, et ça concerne le Moyen-Orient, ça va concerner le Proche-Orient, le Liban, Israël plus tard, mais aussi l'international avec les États-Unis. Et donc, la révolution iranienne est multiforme, nationale, islamique et internationale. C'est ce qui fait sa grandeur, mais sa faiblesse aussi. Mais c'est aussi un des moyens pour elle de survivre 47 ans plus tard. Et effectivement, Roménie a été le vecteur, plus que l'initiateur peut-être, d'un mouvement beaucoup plus ample, qui était celui de la guerre froide, qui était celui de la libération des Iraniens qui voulaient vivre correctement, et une libération intellectuelle aussi, les Iraniens voulant un peu de liberté et d'ouverture culturelle.
Vous écrivez que plus de 30 ans avant les printemps arabes de 2011, donc les fameux printemps arabes, l'Iran fut le premier pays du monde musulman en 79 à vivre l'enthousiasme d'un printemps de Téhéran. Mais vous dites aussi que ce pays a été ensuite étouffé avec la prise du pouvoir par un islam radical.
Tout à fait. Le printemps de Téhéran, après la révolution, Roménie arrive en février, donc le printemps, le mois de mars, le nouvel an iranien, les rues de Téhéran, c'était une fête permanente, tout était ouvert, tout était libre. Et c'était un vrai printemps. Première fois qu'un pays musulman, la population, toute seule, non violente, a réussi à renverser une dictature militaire soutenue par les États-Unis. Un phénomène exceptionnel. Au Vietnam, c'était des années de guerre civile atroce. Les Iraniens ont une conscience politique, une maturité beaucoup plus forte que d'autres pays. C'est un exemple. Le modèle de la révolution islamique et de l'islam politique s'est répandu par la suite.
Il y a eu du terrorisme aussi qui a été organisé par le régime, la République islamique.
Absolument. On parlait de 79. 79, tout est encore en place. Ensuite, après la guerre Irak-Iran, qui scelle le régime, est un pays en guerre.
En 1980.
En 1980, septembre 1980, Saddam Hussein attaque l'Iran. Et à ce moment-là, tout le monde se réfugie derrière le chef de l'État. On défend la patrie. Et Roménie dit, la patrie est plus importante que la vie. Et donc, à ce moment-là, tout le monde est réuni et les religieux prennent le pouvoir. C'est grâce à l'attaque irakienne que les religieux en place ont pris tous les pouvoirs et éliminé la gauche, les libéraux et absolument tous les opposants au régime.
Est-ce qu'on peut dire finalement, Bernard Ourka, que la révolution iranienne a été volée par l'ayatollah Khomeini ou
Il n'a pas volé la révolution, il l'a faite. Il a réussi à synthétiser les forces d'opposition, des communistes, des libéraux, des islamiques traditionnalistes. Il était le catalyseur de tout cela, pour des raisons conjoncturelles. Il n'a rien volé. Le problème, c'est qu'ensuite, face à des opposants très minoritaires, soutenu de l'extérieur, il pouvait s'appuyer sur une masse de la population encore très traditionnelle, contrôlée par le système religieux chiite, qui contrôlait le territoire. Chez géographe, on fait le contrôle du territoire, c'est important. Les religieux contrôlaient le territoire. Le Parti communiste, non. Les trotskistes, non. Les libéraux, non. Et c'est là qui fait que c'est une victoire populaire, sachant que le populaire, c'est aussi du populisme, et ça peut dégénérer en dictature populaire, ce qui n'est pas la meilleure des démocraties.
Merci Bernard Ourka. Je signale deux livres de vous, Iran, paradoxe d'une nation, qui a été édité aux éditions du CNRS, et Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance, chez Armand Collin en 2016. Voilà, c'est la fin du fil de l'histoire. L'émission était réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin, à la technique Titouan Labarre et Tila Iravu. Vous pouvez vous abonner au podcast du fil de l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires sont les bienvenus sur la page de l'émission, ainsi que sur Facebook.